Galates chapitre 3. Hallelujah. Et on va continuer la série qu'on a commencée il y a 3-4 semaines déjà. Et on va parler de qui nous sommes en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous avons dit? C'est que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez avoir de la difficulté à une vie victorieuse. On sait que quand le diable vient, par exemple, pour nous attaquer, il nous attaque presque toujours au niveau de notre identité. Même on voit Jésus, que quand il fut baptisé, les cieux ont été ouverts et le Père a dit des choses concernant le Fils. Hein, voici son Fils, hein, bien-aimé, etc. Donc, vraiment, l'identité de Jésus-Christ a été confirmée par le Père. Mais tout de suite après, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert et pendant 40 jours, il était tenté. Et quand il était tenté, c'était quoi la stratégie du diable? Il a toujours posé des questions. Il a toujours voulu mettre des doutes dans la tête de Jésus en disant, si vous êtes vraiment le Fils de Dieu, si vous êtes vraiment le Fils de Dieu, pourquoi est-ce que tu ne changes pas cette pierre en pain? Si vous êtes vraiment le Fils de Dieu, pourquoi est-ce que tu ne sautes pas de sommet? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, vois-tu, il a mis en question, il a essayé de semer les doutes concernant son identité. Et c'est la même chose pour vous et pour moi aujourd'hui. On sait que Dieu nous aime et Dieu est pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais on sait aussi que nous avons un adversaire, le diable. Et il y a beaucoup de gens qui disent, « Oh, le diable, tu crois au diable? » Oui, je crois au diable. Et si vous ne croyez pas au diable, ça prouve qu'il existe parce qu'il vous a déjà trompé. Amen? Donc, oui, je crois au diable, mais je crois que mon Dieu est beaucoup plus grand et plus puissant que le diable. Mais le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Et qui est-ce qu'il peut dévorer? Il peut dévorer les chrétiens qui ne savent pas qui ils sont en Jésus. Amen? Donc, il vient et il dit, mais toi, regarde-toi, toi, tu es vraiment un bon exemple de chrétien. Si tu es vraiment un chrétien, hein? Même tactique qu'il a utilisée, même stratégie qu'il a utilisée avec Jésus. Si tu es vraiment un bon chrétien, pourquoi est-ce que tu as crié après ta femme ce matin? Si tu es vraiment un chrétien, pourquoi est-ce que tu as telle lutte? Si tu es vraiment chrétien, et il commence à mettre des doutes, semer des doutes dans notre cœur concernant qui nous sommes. Et nous avons besoin de répondre, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et avec la parole, on peut répondre comme Jésus a répondu, « Il est écrit ». Et on peut dire, la Bible dit, « Oui, c'est vrai que j'ai donné place à la chair cette semaine, mais je me suis repenti, j'ai demandé pardon. » Et le fait, c'est que je ne suis pas un pécheur sauvé par la grâce, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu, je suis aussi juste que Jésus lui-même. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont aussi justes que Jésus lui-même? 3. On a un problème. Soit vous n'avez pas compris quelque chose, soit vous n'êtes pas encore né de nouveau. Parce que si vous êtes, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues, tout le monde est devenu, nouvelles. Et on a commencé à voir que Dieu a fait avec Jésus un grand échange. Jésus est devenu certaines choses pour que nous puissions devenir autre chose. En fait, on a dit que Jésus est devenu pour un peu de temps ce que nous étions pour que je sois capable de devenir ce qu'il est pour toute éternité. Amen? Jésus, la Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché est devenu quoi? Péché. Pourquoi? Afin que nous puissions devenir la justice de Dieu en Jésus. Donc, sur la croix, Jésus a pris ma place, il est devenu péché pour que je sois capable de devenir justice. Amen? Donc, c'est pas orgueilleux pour moi de dire je suis aussi juste que Jésus. Au contraire, ça prend beaucoup d'humilité parce que, par moi-même, je sais que ma justice vaut rien. Mais sa justice en moi, ça vaut tout. Amen? Donc, en fait, c'est le contraire. Si je dis, oh, mais moi, je suis vraiment pas bon à grand chose, je suis bon à rien, Je suis un ver de terre. Je suis un vieux pécheur qui est juste sauvé par la grâce. La seule différence entre les chrétiens et les non-chrétiens, c'est que les chrétiens ne sont pas parfaits, mais ils sont juste pardonnés. Si je parle de même, je suis en train de dire que le sacrifice de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix, c'était pas assez. Amen? En fait, on est en train de diminuer la puissance du sacrifice de Jésus. Mais moi, laisse-moi vous dire que le sang qui a coulé sur la croix, c'était un sang précieux. La vie qui a été donnée, c'était une vie précieuse. Le sacrifice qui a été fait, c'était un grand sacrifice. Et grâce à lui, je suis passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle et je ne suis plus un pécheur. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est conditionnel, c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Seulement ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut être en Jésus-Christ? Est-ce que c'est en allant à l'église? Est-ce que c'est en faisant partie de la vie comblée? Non. La seule façon qu'on peut devenir un homme, une femme en Christ, c'est de confesser avec la bouche le Seigneur Jésus, de croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort et de naître de nouveau dans son royaume. Ce n'est pas une question d'une dénomination, une église locale, c'est une question d'une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Amen? Mais si je suis en lui, je suis la justice de Dieu. On a vu que Jésus est devenu semblable aux hommes pour que nous puissions devenir semblables à Jésus. Jésus est devenu péché pour que je sois capable de devenir la justice. Et aujourd'hui, nous allons voir une troisième chose que Jésus est devenu afin que nous puissions devenir autre chose. La troisième chose que nous allons voir aujourd'hui se trouve en Galates chapitre 3. Et verset 13. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Galates 3, 13 dit ceci. Que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus est devenu péché, Jésus est devenu semblable aux hommes, et Jésus est devenu malédiction. Pourquoi? Pour que je sois semblable à lui, pour que je sois juste et que le but de Dieu pour ma vie, c'est que je sois béni en lui. Amen?
Amen.
Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être bénis? Pensez à ça. Au lieu d'être maudit, on peut être béni. Le choix est à nous. On peut marcher dans les malédictions dans cette vie terrestre où on peut marcher dans les bénédictions. Et en réalité, qu'est-ce que nous voyons? Le choix est à nous. Jésus a déjà tout fait. Il est déjà devenu malédiction pour que je sois béni en lui. Dieu a dit dans la parole que je mets devant vous deux choix dans le fond, la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. Choisissez la vie. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir aujourd'hui? Marcher dans les malédictions ou marcher dans les bénédictions? Je crois que quand je reviens du Tulsa, je crois que je vais commencer une série pour comment marcher dans les bénédictions de Dieu ou comment être un homme et une femme bénie. Qu'est-ce qu'il a l'air, un homme, une femme ou un homme béni? Qu'est-ce que ces personnes ont l'air? Qu'est-ce que ça veut dire d'être béni de Dieu? C'est-à-dire que Dieu a souri sur nous. C'est-à-dire que toute la bonté de Dieu, et Dieu est vraiment bon. Vous êtes d'accord? Tout ce qui est bon en lui a été transmis à nous. Hein? La faveur, la grâce, peu importe où que je sois, peu importe ce que je fais, si je suis en lui, je peux marcher dans les bénédictions de Dieu. Mais c'est pas parce que je suis une bonne personne. C'est pas parce que je suis plus intelligent ou parce que je suis plus fin que je peux être béni. C'est parce que Jésus a payé un prix. Et il a fait un échange pour moi. Jésus, qui était déjà béni, qui habitait déjà dans la gloire avec le Père, il a quitté la gloire pour devenir semblable aux hommes. Il a payé le prix, il a pris notre place sur la croix. Et Jésus est devenu malédiction pour que je sois béni. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. C'était quoi la malédiction de la loi? Est-ce que vous savez c'est quoi la malédiction de la loi? Il y a trois choses qui sont comprises dans la malédiction de la loi. Et on peut voir ça en Deutéronome 29 et 30. On voit qu'il y avait trois choses que Dieu a dit à son peuple. que si tu marches avec moi, il a dit, vous serez béni. Mais si vous ne marchez pas avec moi, vous serez maudit. Et la malédiction de la loi comprenait trois choses. La mort, il a dit, vous allez mourir. La pauvreté, il a dit que vous allez manquer des choses. Et troisièmement, c'était la maladie. Vous serez malade. Donc, la maladie, la mort et la pauvreté font partie de la malédiction de la loi. Et n'est-ce pas drôle que le diable, il est tellement rusé qu'il a convaincu certaines personnes religieuses et il y a des personnes qui parlent de la maladie comme si c'était une bénédiction. Hein? Oh, le Seigneur m'a donné un cancer pour m'enseigner quelque chose. Je suis béni. Et il pense que plus je souffre avec une maladie, plus je vais être purifié. Ça, c'est pas un principe qu'on trouve dans la Bible. Ça, c'est un principe qui se trouve seulement deux places. À l'enfer et dans les traditions des hommes. Amen? Il y a des personnes qui vont dire que, vois-tu, c'est plus bénissant d'être pauvre, par exemple, que d'avoir des moyens. Est-ce que c'est vrai? Il y a des personnes qui pensent, plus une personne est pauvre, plus il est béni, plus il est proche de Dieu, plus il est humble. Est-ce que c'est vrai? Moi, je n'ai pas trouvé que c'est vrai. Moi, j'ai trouvé que souvent des personnes qui sont pauvres et qui n'ont rien, ils pensent plus à l'argent que n'importe qui. C'est vrai, n'est-ce pas? Ils sont plus égoïstes que n'importe qui des fois. Pas toujours. Il y a des riches qui sont égoïstes. Il y a des riches qui sont orgueilleux. Il y a des riches qui aiment l'argent plus qu'ils aiment Dieu. Mais laissez-moi vous dire, il y a des pauvres qui aiment l'argent plus qu'ils aiment Dieu aussi. N'est-ce pas vrai? Donc, la malédiction de la loi, comprenez, la maladie, la pauvreté et la mort. Et la Bible dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. C'est quel temps? Est-ce que c'est futur ou passé? Si Christ m'a déjà racheté de la malédiction de la loi, c'est-à-dire qu'il m'a déjà racheté de la maladie, la pauvreté et la mort spirituelle. C'est-à-dire que je ne suis plus obligé d'être mort spirituellement, je ne suis plus obligé d'être malade physiquement, et je ne suis plus obligé d'être pauvre financièrement. Si ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, je ne sais pas qu'est-ce qui est une bonne nouvelle. Jésus a dit, allez, prêchez l'Évangile. L'Évangile, ça veut dire littéralement la bonne nouvelle. Laissez-moi vous dire, on a, en tant que chrétien, une bonne nouvelle à annoncer au monde. Vous n'êtes plus obligé de rester mort spirituellement. Vous n'êtes plus obligé de rester pauvre. Et vous n'êtes plus obligé de rester malade. Amen? Amen. Thérèse Roy est ici ce matin. Elle a appelé en disant, je ne peux pas venir, j'ai plus de force. On a prié, elle est là. Et on peut vous donner un paquet de témoignages ce matin des personnes qui ont été guéries par la puissance de Dieu. Combien de vous ont été guéris par la puissance de Dieu? Regardez! Moi aussi! Alléluia! Christ m'a racheté de la malédiction de l'or. Comment? Parce qu'il est devenu malédiction pour moi. Et je pense que, des fois, on pense qu'on est humble quand on dit, mais tu sais, je ne veux pas grand chose dans la vie. Hein? Je veux juste assez pour payer mon loyer, juste assez pour payer mes factures. On va voir dans une minute, ça, c'est pas une bonne attitude. Dans le fond, c'est une attitude égoïste. Dieu veut que vous ayez plus qu'assez, parce qu'il veut que vous ayez toujours de quoi satisfaire vos besoins, mais il veut que vous soyez capable de bénir les autres aussi. Amen? Et vraiment, moi je trouve que c'est tellement triste que la plupart des chrétiens, ils ignorent, ils savent pas qu'ils ne sont plus obligés d'être malades, d'être pauvres et d'être morts. Ils pensent que oui, un jour je vais être béni, rendu au ciel. Dans l'eau de l'or, je vais être béni. Non, 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 c'est pas dans l'eau de l'or seulement. Oui, là aussi. Mais aujourd'hui même, ici sur la terre, je peux marcher dans les bénédictions de Dieu. Je suis déjà béni. Regardons Éphésiens chapitre 1. C'est ça que je veux que vous sachiez, c'est que si vous êtes en Jésus-Christ, combien de vous êtes en Jésus? Je veux aujourd'hui souligner le fait que juridiquement, légalement, OK? Parce que, voyez-vous, il y a des lois spirituelles comme il y a des lois naturelles. On a la loi de la gravité qui marche toujours. Il y a aussi la loi de donner, de recevoir. Il y a toutes sortes de lois spirituelles qui marchent toujours aussi. Et qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines lois spirituelles que si on les ignore, on va continuer à mener une vie qui est maudite. Tandis que si on sait qu'est-ce que Dieu a fait pour nous en Jésus, si on sait qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons et ce que nous pouvons faire, nous allons voir une vie transformée et changée. Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit ceci. C'est un verset qui est tellement, tellement fort et puissant. Alléluia. C'est marqué, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes ou en Christ. » Combien de vous êtes en Jésus-Christ ce matin? Si vous êtes en Jésus, vous êtes une nouvelle création. Et cette nouvelle création est déjà juste. Amen. Et cette nouvelle création est déjà bénie. Légalement, juridiquement, vous êtes déjà bénis. Déjà, vous êtes racheté de la malédiction de la loi. Mais ça se peut qu'en pratique, vous ne marchez pas dans la lumière de ce qui vous appartient légalement. C'est comme j'ai entendu parler d'un prédicateur en Angleterre il y a longtemps. Je pense que c'était Charles Spurgeon. Et lui, c'était un prédicateur bien connu. Il est allé voir une femme âgée qui habitait toute seule, juste à côté du chemin de fer, dans une partie de la ville très pauvre. Elle habitait dans une petite maison que, dans le fond, on n'aurait même pas dû l'appeler une maison. C'était plutôt un shack, on dirait, une cabane. Mais elle habitait là, tout seule. Et monsieur, le prédicateur, est allé la voir pour l'encourager. Elle était une femme âgée, plus que 90 ans, je pense, si je m'en souviens. Et puis, il est en train d'attendre dans la petite cabane. Elle est allée chercher quelque chose et juste prendre le temps de regarder un peu qu'est-ce qu'elle avait accroché sur le mur, les tableaux, les peintures. Puis, tout d'un coup, il voit quelque chose qui est encadré sur le mur. C'est un document légal. Et dans ce document légal, c'est marqué que moi, telle personne qui était nommée, cède tous mes biens et toute ma propriété à telle personne. Et ça a nommé le nom de cette femme pauvre. OK? C'était signé, daté, scellé, tout, et c'était dans un cadre. Et puis, la femme revient et me dit, « Qu'est-ce que c'est ça sur le mur? » Oh, mais ça, c'est mon ancienne... patron qui m'a donné ça, il a laissé ça pour moi quand il est décédé. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est? Elle a dit, mais elle était un peu gênée. Non, pas vraiment, mais je ne sais pas lire. OK? Et c'était une femme qui était la bonne de ce monsieur qui travaillait. C'était la femme de ménage pour un homme qui était excessivement riche, qui avait des milliards de dollars, ou pas des dollars, mais... des livres, on pourrait dire, en Angleterre. Et quand il est mort, lui, il n'avait pas de postérité, il n'avait pas d'enfants, pas de petits-enfants, il n'y avait personne à qui il voulait donner ces choses. Donc, c'est une vraie histoire que je te donne. Il a cédé tous ses biens comme héritage à cette femme. Et quand il est décédé, quelqu'un lui a remis ce papier dans une enveloppe, mais elle ne savait pas lire. Donc, elle a pris ça. Elle est rentrée chez elle et a mis ça dans un cadre. Et elle a vécu pendant des années comme une femme pauvre, tout en étant riche. Vraie histoire. Savez-vous que ça, c'est vraiment une bonne image de 95% des chrétiens ici sur la terre? Savez-vous que vous êtes déjà bénis? Il nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Moi, je ne vais pas être béni, mais je suis déjà béni. Cette femme a déjà été bénie, mais elle ne marchait pas dans la lumière de ses bénédictions. Pourquoi? Manque de connaissance. Mon peuple périsse faute de connaissance. C'est ça que la Bible dit. Mon peuple périsse faute de connaissance. Il y a des personnes qui ne savent pas que Jésus a déjà fait tout ce qui est nécessaire pour assurer que nous soyons bénis. Alléluia. Donc, regardons, on va juste voir trois choses aujourd'hui que je veux que vous souligniez. On ne va pas prendre beaucoup de temps pour le faire parce que je veux prendre plus de temps dans les semaines à venir après mon retour. On va parler des choses encore plus spécifiques et des choses encore plus pratiques et comment vous et moi nous pouvons prendre la vérité juridique et légale qui nous appartient et la mettre en pratique. Comment est-ce qu'on peut se positionner pour la prospérité? Comment est-ce qu'on peut se positionner pour les bénédictions de Dieu? Comment est-ce qu'on peut marcher dans la lumière de qu'est-ce qui nous appartient déjà en lui? Amen?
Amen.
Alléluia. Donc, on a dit dans vos notes qu'il est devenu malédiction et je suis devenu béni en lui. Alléluia. Christ nous a rachetés dans la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus était pendu au bois pour devenir malédiction pour moi. Galates 3, 8 et 9 dit, et aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Combien de croyants est-ce que nous avons ici? Si vous avez cru, vous avez été bénis avec Abraham le croyant et les bénédictions d'Abraham aussi vous appartiennent. Tout ce que Dieu a promis à Abraham vous appartient aujourd'hui. Ah oui, mais pourquoi est-ce que je ne le vois pas? Peut-être vous l'ignoriez ou vous ne savez pas comment l'activer dans votre vie. Savez-vous, cette femme ne savait pas qu'elle était millionnaire. Mais elle était quand même millionnaire. Peut-être vous ne savez pas que vous êtes délivré et racheté de la malédiction. C'est-à-dire la maladie, la pauvreté et la mort, mais vous êtes racheté quand même. Alléluia! Donc, trois choses qu'on va juste mentionner, que Jésus a fait, l'échange qu'il a fait, parce que Jésus a dû payer cher. C'est pas pour rien que nous sommes bénis, c'est parce que Jésus a pris ma place. C'est moi qui ai mérité la malédiction, mais Jésus est devenu malédiction à ma place. Et je pense que, si pas pour une autre raison, juste par respect et par honneur pour Jésus, par honneur pour qu'est-ce que Jésus-Christ a fait, je devrais vouloir activer les bénédictions de Dieu dans ma vie. Sinon, Jésus est mort en vain. Amen? C'est-à-dire que si je n'accepte pas le salut pour mon âme, si je ne suis pas né de nouveau, dans le fond, pour moi, Jésus est mort en vain. Si je ne reçois la guérison qui m'appartient en Jésus-Christ, dans un sens, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent recevoir, mais il y a d'autres personnes qui donnent l'impression qu'ils ne veulent même pas recevoir. Ces personnes-là, posez-vous la question, est-ce que Jésus a souffert en vain? Il y a des personnes qui se contentent d'avoir rien dans la vie financièrement, mais est-ce que Jésus a souffert en vain? Laissez-moi vous dire, Jésus a payé cher pour que vous soyez bénis. Je pense qu'on lui doit l'honneur de marcher dans la lumière de ses bénédictions. Et en plus, c'est beaucoup plus de fun d'être béni que maudit. Combien de vous, vous aimez mieux être malade qu'en santé? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment mieux avoir plus d'argent que nécessaire? C'est-à-dire, vous pouvez payer les factures, plus donner des offrandes et donner aux pauvres. Ou aimeriez-vous, est-ce que vous aimez mieux être pas capable de faire rejoindre les doubles? Bonne question, n'est-ce pas? C'est pas une question piège non plus. Donc, trois choses. De un, il est mort et j'ai reçu la vie. Il est mort et j'ai reçu la vie. Ça, c'est un bon échange, n'est-ce pas? Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché. Jésus est mort à ma place et j'ai reçu la vie à sa place. La Bible dit que vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. N'oubliez pas, la malédiction de la loi comprenait la mort spirituelle, la pauvreté et la maladie. Jésus est mort et j'ai reçu la vie. Deuxième chose, il est devenu malade et j'ai été guéri. Savez-vous une chose? La Bible est claire. que Jésus est appelé l'agneau de Dieu qui était immolé avant la fondation du monde. Vous savez que Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu utilise le symbole d'un agneau? C'est parce que dans l'Ancien Testament, il demandait au peuple juif de prendre les agneaux et les sacrifier, les immoler et de verser le sang de ces agneaux comme sacrifice. Vous vous rappelez de quand les enfants de Dieu étaient esclaves en Égypte? Et Dieu a dit, bon, je vais vous faire sortir avec l'aide de Moïse et ma puissance. Donc, qu'est-ce qu'il a demandé? C'est que chaque famille avait besoin de prendre un agneau sans tache. Et au moment donné, tout le monde, au même temps, je pense que c'était le 14e jour de tel mois, tout le monde, au même moment, avait besoin d'immoler l'agneau et de prendre le sang de l'agneau et de faire quoi avec? De mettre ça sur le linteau de la porte. Pourquoi? Parce que Dieu allait laisser passer un ange destructeur et chaque premier-né de chaque famille en Égypte allait mourir cette soirée-là. Sauf, il a dit, quand je vois le sang sur la porte, je vais passer par-dessus. Il n'y a personne qui va mourir dans cette maison-là. OK? Même chose pour nous. Jésus est l'agneau de Dieu. Son sang a été versé et nous avons besoin d'appliquer le sang de Jésus à la porte de notre cœur. Et maintenant, on est sauvé de la mort spirituelle parce que Dieu voit le sang. Et quand le jugement va être donné pour tous les hommes qui vont un jour apparaître devant le grand trône blanc, il va voir le sang appliqué sur notre vie. Et la colère de Dieu et le jugement de Dieu va passer par-dessus de nous parce que le sang nous a rachetés de la mort. Amen. Savez-vous, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il a dit aux enfants d'Israël de faire quelque chose avec la chair de l'agneau. C'était quoi? La faire cuire et la manger. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de la force pour sortir de l'Égypte. On parle d'une population comme Montréal. Imaginez, on avait des personnes moins jeunes et les nourrissons. Et ils avaient besoin de marcher longtemps. Ils avaient 11 jours de route à faire pour se rendre à la terre promise. On joue avec toute une population comme la population de Montréal. Mais savez-vous que la Bible dit que quand ils sont sortis de l'Égypte, qu'il n'y avait pas une personne qui traînait le pied? Pourquoi? Surnaturellement, Dieu a donné la force physique à tout son peuple. Pourquoi et comment? À travers la chair de l'agneau. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus, quand il était pendu au bois, il est devenu malédiction pour nous. Quand son sang a été versé, c'était pour nous sauver de la mort spirituelle. Mais savez-vous une chose? La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. C'est-à-dire que quand ils ont fouetté Jésus, on a vu le clip vidéo du film La Passion de Mel Gibson la semaine passée. Et savez-vous, quand Jésus a reçu les meurtrissures, ce n'était pas juste un coupe de blessures. Il était complètement, de la sommet de sa tête jusqu'à ses pieds, sa chair a été déchirée. Les fouets qu'ils utilisaient avaient des petits morceaux de plomb et de verre dans les bouts de ces fouets. Et à chaque fois qu'ils frappaient Jésus, le métal et le verre entraient dans la chair. Et puis, quand ils ont enlevé le fouet, la chair partait avec. Laissez-moi vous dire, pourquoi est-ce que Jésus s'est fait fouetter? Il est devenu malade, malédiction, pour que nous soyons guéris. Je veux pas... Moi, je m'en souviens de ça. Quand l'ennemi vient et j'essaie de tomber malade... Je commence à tomber malade, des fois, je me souviens, j'essaie de me rappeler du fait que Jésus a souffert. Et qu'est-ce que Jésus a porté? Je n'ai pas besoin de porter. On ne fait pas payer deux fois la même chose. Comme on a dit la semaine passée, si j'inviterai Daniel au restaurant et on mange tous les deux une pizza ou quelque chose, une poutine, si je dis, ben Daniel, je vais payer pour toi et je paye pour ma poutine et je paye pour sa poutine. Si, arrivé à la caisse, la personne demande à Daniel, faut que tu payes pour ta poutine. Qu'est-ce qu'il va répondre? Non, je n'ai pas besoin de payer pour ça. Lui, il a déjà payé pour moi. Oh non, 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 mais toi, tu as besoin de payer. Toi, tu as mangé. Lui, il a mangé sa poutine. Mais toi, tu as mangé la tienne, tu paies. Qu'est-ce qu'il va dire? Au revoir. Et pas bientôt non plus. Tu ne vas pas me faire payer qu'est-ce qu'il a déjà payé. Je pense qu'on a besoin de faire la même chose avec le diable. Quand la maladie vient, on devrait dire, tu ne vas pas me faire payer qu'est-ce que Jésus a déjà payé. Il a payé cher. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri et si j'étais, je suis. Ça, c'est votre droit légal en Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que tout le monde va marcher dans la lumière de cette loi légale. Des fois, c'est une manque de connaissances ou d'autres choses qui peuvent vous empêcher. On va parler de ça dans quelques semaines quand je reviens. Troisième chose, pauvre et je suis devenu riche. Ça, c'est pas trop religieux, qu'est-ce que je vous dis. Parce que les religieux vont vous dire que pour être vraiment pur et homme devant Dieu, il faut être pauvre. Parce qu'il y a même des personnes qui vont mal citer la Bible en disant que l'amour est la racine de tous les maux. Ah, pardon, l'amour. L'argent. Là, j'ai de la misère, matin. Mais je suis béni. Il y a des gens qui vont dire que l'argent est la racine de tous les maux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu ça? Est-ce que c'est vrai? Non. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Si j'aime l'argent plus que j'aime Dieu, j'ai un méchant problème. Mais si j'aime Dieu, la Bible dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Mais regardons qu'est-ce que la Bible dit. Dernier verset qu'on va lire ce matin. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. » Jésus s'est fait pauvre. Pourquoi? De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Lisez le contexte de ce verset. Ça ne parle pas juste des bénédictions et des richesses spirituelles. C'est dans le contexte des richesses naturelles. Il y a des personnes qui pensent que Jésus était pauvre sur la terre. Oh, vois-tu, Jésus est né dans une étable. Pourquoi est-ce que Jésus est né dans une étable? Parce qu'il n'y avait pas de place dans les hôtels. Ce n'est pas parce que ses parents n'avaient pas l'argent pour payer un hôtel. Son père travaillait. Son père était charpentier. Et la plupart des charpentiers que je connais sont bien payés. Hein? Surtout les charpentiers juifs. Moi, je dis ça pas avec un manque de respect, mais au contraire. C'est pour vous montrer que le peuple de Dieu, vois-tu, les peuples juifs, c'est un peuple élu et choisi de Dieu. Eux autres n'ont pas de la misère à croire à la prospérité. Intéressant, n'est-ce pas? Tout le monde se moque des juifs parce qu'ils sont riches, ils ont de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les promesses de Dieu concernant la prospérité. Amen. Si Jésus était si pauvre, pourquoi est-ce que les soldats ont tiré au sort pour avoir son vêtement? Hein, il s'habillait bien. Peut-être, juste une pensée. Vois-tu, il y a tellement de personnes qui pensent, « Oh, mais Jésus était pauvre, pauvre. » Moi, laissez-moi vous dire, Judas, quand il a livré Jésus, la soirée même qu'il a livré Jésus, quand il s'est levé debout pour aller faire quelque chose, qu'est-ce que les gens pensaient? Où est-ce qu'il est allé? Qu'est-ce qu'il pensait? Oh, peut-être Judas, parce que Judas était trésorier du ministère de Jésus. Intéressant, il avait besoin d'un trésorier, c'est-à-dire qu'il se promenait avec de l'argent. Il est allé faire quoi? Il pensait, oh, il est allé donner une offrande aux pauvres. Pourquoi est-ce qu'il pensait ça? Parce que de toute évidence, les disciples de Jésus avaient l'habitude de faire les offrandes aux pauvres. C'est pas eux autres qui mendiaient, c'est eux autres qui faisaient les offrandes. N'est-ce pas intéressant? Jésus avait une gang de femmes qui le suivaient dans le but de soutenir son ministère financièrement. On le voit dans la parole de Dieu. Mais sur la croix, Jésus n'avait plus rien. Ils ont enlevé ses vêtements. Il était cloué à une croix complètement nu et complètement pauvre. Pas juste ça, mais autrefois, il avait toutes les richesses du ciel, mais il s'est dépouillé lui-même de toute sa gloire quand il est devenu semblable aux hommes. Et même là, étant un homme, et c'est pourquoi je sais qu'il était béni. La Bible dans l'Ancien Testament a promis que les hommes qui suivaient la loi de Dieu seraient bénis financièrement. N'est-ce pas vrai? Est-ce qu'il y avait un homme juif qui a suivi la loi plus ou mieux que Jésus? Non. Donc, je sais qu'il était béni. Je sais qu'il avait toujours de quoi satisfaire à ses besoins. Mais il a pris une décision de se laisser dépouiller par les hommes aussi. Il était complètement nu et pauvre sur la croix. Pourquoi? Pour que nous puissions être enrichis en lui. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu veut que tout le monde devienne millionnaire ici? Non. Mais qu'est-ce que la définition de la richesse en Jésus? C'est de un, d'être riche spirituellement et émotionnellement. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que vous soyez en bonne santé et que vous soyez prospères, comme prospère l'état de votre âme. Donc, la première prospérité, c'est une prospérité d'esprit et d'âme. Mais après ça, Dieu veut, selon sa parole, c'est pas moi qui invente ce verset, la Bible dit que, et vous aurez toujours, mon Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de bénédictions, afin que vous ayez toujours de quoi satisfaire à vos besoins, avec un superflu pour participer à toute bonne œuvre. C'est la volonté de Dieu pour nous. Jésus est devenu malédiction. Il est mort et j'ai reçu la vie. Il est devenu malade et par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et il s'est fait pauvre et j'ai été enrichi. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être béni en lui? Si Tania veut venir, on va juste fermer dans la prière aujourd'hui. Alléluia. Je sais que d'habitude, on aime terminer à 11h30. On a eu le baptême et plusieurs annonces, mais ça vaut la peine de prendre le temps nécessaire d'écouter et d'entendre ce que Dieu veut nous dire, n'est-ce pas? Alléluia. Je crois vraiment que quand je reviens, on va faire une série sur comment manifester et marcher dans les bénédictions de Dieu. C'est bon, c'est une chose de savoir que ces choses vous appartiennent. C'est une autre chose de savoir comment les appliquer et comment les voir manifester dans votre vie. Parce que la réalité, et voici la chose qui est dure des fois pour la tête humaine à comprendre. La réalité, c'est que chaque personne ici qui est en Jésus-Christ est déjà en vie spirituellement et juste devant Dieu. Vous êtes déjà guéri en lui. Et vous êtes déjà riche en lui. Amen. Vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Dieu a donné, le Père a donné toutes choses dans l'univers, au ciel et sur la terre. Toutes choses ont été données à Jésus. Il a hérité toutes choses. Mais la Bible dit qu'il est la tête, nous sommes le corps, et j'ai hérité toutes choses avec lui. C'est-à-dire que toutes choses m'appartiennent aussi. Et je sais qu'il y a bien des gens, même ce matin, que leur tête religieuse est en train de dire, « Qu'est-ce qu'il est là? Ça, c'est bizarre. J'ai jamais entendu ça. » Peut-être que vous n'avez jamais lu la Bible comme il faut. Peut-être la seule chose que vous avez entendue, c'est qu'est-ce que les autres personnes religieuses vous ont enseigné. C'est le temps maintenant de prendre votre propre Bible. Croyez pas qu'est-ce que je dis parce que je le dis. Croyez qu'est-ce que je dis parce que c'est écrit dans votre Bible. Amen. Ce sont les Écritures. Vous allez voir, vous êtes bénis en lui. Avec tous les yeux fermés, on va faire une prière ce matin. Et juste avant de prier, j'aimerais donner l'occasion. S'il n'y a pas chance des personnes qui sont ici présentes qui diraient, pasteur, je ne comprends pas tout ce que tu dis, mais il y a quelque chose dans mon cœur qui dit que c'est vrai. Et peut-être il y a des personnes qui diraient, la réalité c'est que je ne suis même pas sûr si je suis en Jésus-Christ ou non. Si vous n'êtes pas sûr d'être en Jésus-Christ, ça se peut que vous n'êtes pas. Mais ce n'est pas une situation qu'on ne peut pas remédier. Même ce matin, si tu veux, tu peux faire une prière. On va tous prier dans une minute. Mais j'invite tous ceux et celles qui veulent faire cette prière pour la première fois, dans une minute, je vais vous donner l'occasion de prendre une décision d'accepter Jésus comme ton sauveur et comme ton maître. Je ne t'invite pas à faire partie forcément de cette église, et même si vous êtes la bienvenue dans cette église, mais ce n'est pas cette église qui va vous sauver, ce n'est pas moi qui va vous sauver, c'est Jésus. Ce n'est pas une question d'être baptiste, catholique, méthodiste, mais c'est une question d'être en Jésus-Christ. Donc, si vous êtes ici ce matin, tu dis, moi, je crois de tout mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois qu'il était enterré et le troisième jour ressuscité. Et aujourd'hui, je vais prendre une décision de qualité de lui donner ma vie. La Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Et qu'est-ce qui arrive quand tu fais cette prière? Spirituellement parlant, Dieu va te transporter du royaume des ténèbres. Il va te faire naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Tu vas devenir une nouvelle création dans ton cœur. Tous tes péchés vont être effacés. Tu vas comme pouvoir recommencer ta vie à zéro avec le Seigneur Jésus. Donc, avec tous les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, « Ça, c'est moi, j'ai besoin de faire cette prière. J'ai besoin de savoir sans aucune doute que si je meurais aujourd'hui, j'ai besoin de savoir que j'irai au ciel. J'ai besoin de savoir que je suis en Jésus. » Si c'est le cas, juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prendre cette décision? Soyez pas gênés. Jésus a dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Et si tu me renies devant les hommes, je te renierai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire cette prière? Sinon, peut-être pour une raison quelconque, si vous êtes là et vous êtes trop gêné de lever votre main, je vous encourage, ne laisse pas passer une autre minute, une autre journée sans donner ta vie à Jésus. Mais je vais inviter tous ceux et celles qui sont ici présents, qui veulent marcher dans la bénédiction de Dieu, de faire cette prière avec moi. Père Céleste, je te remercie que Jésus est devenu malédiction pour moi. Et Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi. Je suis racheté de la mort spirituelle. Je suis racheté de la maladie. Et je suis racheté de la pauvreté. Aide-moi à marcher dans la lumière de cette vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se lever debout ce matin. J'ai à cœur aussi.